Voilà, bonjour à tous. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu nous vois ce matin, tu nous connais tous. Seigneur, tu lis dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il n'y a rien qui t'est caché. Pas une seule parcelle à l'intérieur de nous n'échappe à ton regard. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais le cœur des uns et des autres. Seigneur, et c'est toi qui juges. Seigneur, ce matin, nous voulons nous placer devant toi. Nous voulons, Seigneur, que ta parole nous sonde, qu'elle sonde nos reins. Seigneur, et nous voulons accepter toute forme de jugement qui nous vient de toi. Parce que tu es juste, parce que tu es droit, parce qu'il n'y a pas de péché en toi. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. J'aimerais que nous lisions la parabole du vigneron dans le verset 20, Luc 20. C'est une parabole que l'on trouve dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Luc 20 à partir du verset 9. Il se mit, donc Jésus, ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui donnent une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit : « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent : « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent : « À Dieu ne plaise ! » Ce ne sera pas ainsi, c'est ça que ça veut dire. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit : « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Il y a manifestement dans le monde et depuis très longtemps un problème de communication entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et son peuple. Dieu parle et son peuple ne comprend pas, ne cherche pas à comprendre. Dans ce texte, il est dit que les pharisiens avaient parfaitement compris Jésus. Et c'est pourquoi ils voulaient le prendre, pour le faire taire. Quand Dieu se manifeste aux hommes, il y a des réactions. C'est ce que nous montre cette parabole. Et il y a dans le contexte de ce chapitre qui est le chapitre 20, un passage juste avant, dans le chapitre 19, qui est une sorte d'introduction à cette parabole. Nous allons le lire. Luc 19, verset 41, à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui te donneraient la paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne se laisseront pas, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jésus pleure sur Jérusalem. Il pleure à cause du rejet dont il fait l'objet. Il pleure parce que ceux qui sont ses frères ne veulent pas entendre les belles paroles qu'il leur annonce. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui te donneraient la paix. Jésus s'adresse à Jérusalem comme il s'adresserait à une personne. En fait, il s'adresse à tous ces gens qui sont là et qui font la ville, n'est-ce pas, les chefs religieux, la population, la foule. Mais cette ville de Jérusalem, cette ville dont le nom signifie fondement de la paix, ne connaît pas la paix. Elle n'a pas reconnu Jésus comme étant le Messie qui apporte la paix. Jésus est réellement venu apporter la paix, pas la division, pas l'épée. Mais comme il n'était pas le genre de Messie qu'ils attendaient, alors ils l'ont rejeté. Et c'est pour ça que la division est venue. Le rejet du Messie, le rejet des envoyés de Dieu, amène toujours à la destruction. Ici, c'est la destruction de Jérusalem. Et surtout, pour ce peuple que Dieu avait choisi, cela va amener la fin de la relation particulière qu'il avait avec eux. Le rejet du Messie conduit à ce que Dieu nous rejette. Et nous amène au jugement et à l'endurcissement des cœurs. Les choses qui pouvaient te donner la paix sont maintenant cachées à tes yeux. Rendez-vous compte. Il y a désormais un aveuglement qui touche Israël. L'apôtre Paul, dans Romains 11, parle d'un esprit d'assoupissement, d'endurcissement. Israël a perdu la possibilité de voir et d'entendre la parole du Messie. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il est dit jusqu'à ce que tous les païens soient entrés, soient sauvés. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le jugement est tombé sur Israël parce qu'ils ont refusé de connaître le Messie lors de sa visitation sur la terre. Ils étaient aveuglés par leur culture, par leur tradition, par l'amour d'eux-mêmes. de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils représentaient, par l'orgueil même d'avoir un Dieu vivant, par leur culture, qu'ils aimaient beaucoup plus que leur Dieu et que leur Messie. Et Jésus pleure aussi à cause du fossé qui s'est creusé entre Dieu et son propre peuple. Parce que ce n'est pas que lui qu'ils ont rejeté, c'est Dieu depuis le début qu'ils ont rejeté. Dieu leur avait fait des promesses de rapprochement, n'est-ce pas ? S'ils se détournaient de leur mauvaise voie, les choses reviendront dans l'ordre. Toutes les bénédictions qu'ils avaient reçues et qui étaient conditionnelles à l'obéissance, tout cela est passé. Il ne reste plus que le jugement et l'aveuglement jusqu'à la seconde venue de notre Seigneur. Et là, Israël accueillera le Messie comme un Messie triomphant. Au chapitre 13, Jésus avait déjà parlé de cette façon dans Luc 13, 34 et 35. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Est-ce que vous avez du mal à percevoir Dieu ? Est-ce que vous avez du mal à comprendre comment il agit ? Est-ce que Dieu est comme absent de votre vie ? Dans la parabole que nous venons de lire, nous comprenons que depuis le début de l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu n'a cherché qu'une seule chose, s'affranchir de la présence de Dieu, pour devenir une nation comme les autres. Un homme planta une vigne. Évidemment, cet homme, c'est Dieu. Dieu planta une vigne. Vous lisez ce texte dans Ésaïe 5, verset 1. C'est de là que Jésus tire cette histoire. Dieu planta une vigne. Il a tout mis en place. Et si vous regardez dans les autres évangiles, vous voyez qu'il a mis en place le pressoir. Il a mis tout ce qu'il faut pour que cette vigne puisse être exploitée dans de bonnes conditions. La vigne symbolise Israël, les serviteurs qui viennent pour chercher le fruit du travail des vignerons, eh bien, ce sont les prophètes. Ces prophètes qui sont venus et venus et venus et venus et qui ont été maltraités, pour certains ont été tués, pour certains ont été torturés. Des envoyés de Dieu, massacrés par le peuple de Dieu. Et ça a duré des siècles. Dieu a supporté ça des siècles. Les serviteurs qui se succèdent et qui sont rejetés, massacrés. Et enfin, il envoie le Fils Il envoie ce qu'il y a de plus proche de la nature de Dieu, Dieu lui-même. Ce n'était pas la première fois que Dieu était descendu, n'est-ce pas? Dieu était descendu pour sauver son peuple, pour le faire sortir d'Égypte. Et là, Dieu vient sous la forme d'un homme, d'un serviteur, le Fils, c'est le Messie. Et aussi, il sera rejeté. Et aussi, il sera torturé. Et aussi, il sera crucifié. Alors, Dieu a dit, j'arrête. J'arrête avec ce peuple. Je ferme le chapitre. Vous avez raté la possibilité que je vous avais offerte de connaître la paix. Vous n'avez pas voulu me recevoir alors que je vous visitais de différentes façons. Et maintenant, vos oreilles seront fermées. Vos yeux ne verront pas. Votre cœur sera sec. Il n'y a plus de possibilité pour vous de me connaître. Je vais me diriger vers d'autres, les païens, ceux qui jusqu'à présent n'avaient pas un Dieu vivant. Je vais me tourner vers eux. Et eux me recevront. Eux voudront bien de moi. Jésus pose une question. Que signifie donc ce qui est écrit ? Verset 17. Ce qui est écrit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Jésus fait référence au psaume 118. On va le lire. Verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Ce texte est prophétique et parle de Jésus. Mais à l'époque, quand il avait été écrit, il parlait du peuple d'Israël vis-à-vis des nations. Il parlait d'Israël comme étant un petit peuple qui était insignifiant, rejeté par les nations, mais qui était clé dans l'histoire du monde, parce que Dieu l'avait voulu. La pierre d'angle dans ce texte de psaume, c'est Israël. Mais quand Jésus prononce ces paroles, la pierre d'angle, c'est lui. Un peuple insignifiant qui a été rejeté par les nations. Aujourd'hui, un homme insignifiant rejeté par son peuple. C'est de cela dont il s'agit, c'est ce parallèle-là que Jésus est en train de faire. Alors qu'il avait été envoyé par Dieu pour les sauver. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous croyez en Jésus ? Je vais reposer la question. Est-ce que vous croyez en Jésus ? Je suis sûr que vous tous vous me dites oui. Mais qu'est-ce que vous croyez par rapport à Jésus ? Qu'il est le Messie ? Satan aussi sait qu'il est le Messie, il le croit. Il le croit vraiment. Est-ce que les pharisiens croyaient en Jésus ? Oui. Et c'est pour ça qu'ils voulaient le tuer. Parce qu'ils savaient parfaitement qui il était. Eux étaient d'un esprit, animés d'un esprit qui voulait évacuer Jésus. Qui voulait le faire taire. Donc ils avaient reconnu l'importance de cet homme. Est-ce que les démons croient en Jésus ? Oui. Lorsque Jésus s'est présenté devant le Gadarénien, ils avaient compris qui il était. N'est-ce pas ? Et c'est pour ça qu'ils lui ont posé la question, est-ce que déjà le jour du jugement est venu ? C'est étonnant, n'est-ce pas, comment beaucoup de gens croyaient que Jésus était le Messie. Mais ça n'est pas suffisant, bien aimé. Parce que si nous disons que nous avons la foi en Jésus, alors nous devons aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il est lui-même la récompense. C'est pas qu'il vous paye pour le croire, n'est-ce pas ? Il est lui-même la récompense. Il est lui-même notre richesse. Il est lui-même celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Il est notre tout. Il remplit tout en tous. Toutes les parcelles de notre cœur et de notre corps et de notre esprit sont occupées par Dieu. C'est ça, être le rémunérateur de ceux qui le connaissent, qui le cherchent. Les disciples de Jean-Baptiste croyaient en Jésus. Ils croyaient qu'il était le Messie, n'est-ce pas ? Il y a cette scène où Jean-Baptiste leur dit « Voilà, il est là ». C'est lui. Moi, je baptise d'eau, mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Mais la plupart des disciples de Jean-Baptiste n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, même s'ils croyaient au Messie. Est-ce que nous avons reçu Jésus ? Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit ? C'est une seule et même question. Est-ce que nous avons reçu Jésus ? Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit ? C'est la même question. Et c'est aussi la question que Paul a posée aux disciples de Jean-Baptiste lorsqu'il les a rencontrés dans Actes chapitre 19 au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé d'eau, a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Jean-Baptiste avait dit, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Laissez-moi vous poser la question ce matin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ou est-ce que vous êtes encore dans l'attente de quelque chose? Il y a un risque. Il y a un risque qu'il vaudra mieux ne pas courir. C'est de refuser la venue du Saint-Esprit comme Israël a refusé la venue des prophètes, puis a refusé la venue du Seigneur Jésus comme le Messie. Est-ce que vous croyez que Dieu a changé depuis l'Ancienne Alliance? Dieu, est-ce que vous pensez que parce que Christ est venu, la relation et la communication entre Dieu et les hommes a changé? Vous pensez que maintenant les choses vont bien? Et que tout est apaisé entre Dieu et l'humanité? Entre Dieu et son peuple? Parce que Dieu s'est détourné d'Israël et qu'il s'est tourné vers nous? Est-ce que vous pensez que nous, nous sommes mieux qu'Israël? Moi, je ne le crois pas. Et si Israël a refusé tout ce que Dieu lui a envoyé pendant des siècles, le dernier que Dieu a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Nous, nous avons le privilège d'avoir commencé par Jésus. Mais Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Est-ce que nous aussi, nous refusons ce que Dieu nous envoie? Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu vers nous. Quel accueil reçoit-il? Ben vous me direz, oui, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à saisir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Le Saint-Esprit a toutes les qualités d'une personne. Et il est complètement interconnecté aux autres membres de la Trinité. Ce n'est pas la peine d'essayer de vouloir faire un profil de personnalité pour le Saint-Esprit, parce qu'il est à la fois Dieu et il est à la fois Jésus. Le Saint-Esprit a des fonctions qui lui sont propres, on est d'accord, n'est-ce pas? C'est lui qui nous parle, qui nous enseigne sur Christ, qui nous rappelle les paroles de Christ. Mais dans l'absolu, il est pareil. Et ce qui appartient au Saint-Esprit appartient aux autres membres de la Trinité, et inversement. Le Saint-Esprit est envoyé de Dieu. Mais ça n'est pas un serviteur de Dieu. Ça n'est pas un prophète de Dieu. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas juste la puissance de Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se présente cette fois-ci au travers du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le repousser et blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est pareil. Parce qu'on pouvait blasphémer contre Jésus lorsqu'il était sur la terre, n'est-ce pas? Le pardon était possible et le Saint-Esprit pouvait encore venir. Mais si nous refusons le Saint-Esprit, nous blasphémons contre le Saint-Esprit. Et il n'y a plus rien après que le jugement. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu à la demande de Jésus-Christ pour manifester sa présence consolatrice aux hommes, pour leur rappeler les enseignements de Jésus. Vous lisez ça dans Jean 16 et dans Jean 16, 16 et Jean 16, 26. Le Saint-Esprit et Jésus sont tous les deux envoyés par Dieu. Dieu a envoyé les deux. Il n'a pas seulement envoyé Jésus, n'est-ce pas? Dans Galates 4, verset 4, vous lisez « Dieu a envoyé son fils né d'une femme ». Et dans Galates 6, vous lisez « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils ». Jésus et le Saint-Esprit sont tous deux la vérité. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 17, il est l'esprit de vérité. Jésus et le Saint-Esprit sont tous deux appelés Paraclétos. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Le consolateur ou l'avocat. Jean 1, Jean 2, 1, si quelqu'un a péché, nous avons un Paraclétos, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jean 15, 26, quand sera venu le Paraclétos, le Saint-Esprit, avocat, consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit prend des noms qui le relie à Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Actes 16, verset 5 et verset 7. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer en Bithynie. N'est-ce pas? On est dans Actes. C'est l'Esprit de Jésus qui est là. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en même temps l'Esprit de Jésus et l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit est appelé le Seigneur et l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17, verset 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Si je vous posais la question, quelle partie de la Trinité demeure dans le croyant? Qu'est-ce que vous me répondez? Pardon? Tu me réponds l'Esprit? Alors le Saint-Esprit habite dans le croyant. Et c'est vrai. Romains 8 en parle dans tout le chapitre. Et au verset 16 particulièrement, n'est-ce pas, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a aussi Jean 14, 16 où Jésus dit qu'il va envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Sauf que c'est aussi le Fils qui habite dans le croyant. N'est-ce pas? Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il y a plus fort. Le Père aussi. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, est-ce que la Trinité a fait la demeure en vous? Est-ce que la Trinité demeure en vous? C'est pas juste le Saint-Esprit, c'est pas juste Jésus, c'est pas juste Dieu. C'est est-ce que la Trinité dans son ensemble demeure en vous et en moi? Pas seulement Jésus, pas seulement le Saint-Esprit, pas seulement Dieu. En Colossiens 2:6, nous lisons que recevoir Christ, c'est recevoir en nous la plénitude de la divinité. Et la plénitude de la divinité, c'est la Trinité. Bien-aimés, est-ce que la Trinité habite en vous? Si oui, alors ça fait une différence. Votre vie ne peut pas être la même. Est-ce que vous avez accepté de prendre en vous la pierre que tout le monde rejetait? Vous savez de quelle pierre je parle, n'est-ce pas? La pierre angulaire. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée. N'est-ce pas? Ils ont commencé à bâtir, ceux qui ont fait un peu de maçonnerie le savent, surtout si vous avez travaillé avec des moellons. Vous avez fait des murs en pierre naturelle. Alors vous prenez les pierres, vous regardez, et vous voyez où ça peut se placer. Et s'il y en a aucune, si ça passe pas, eh ben elle est jetée. Elle est jetée. Et c'est ça qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est ça l'image que Jésus donne. Ceux qui bâtissaient l'ont pris dans leurs mains. Ils ont regardé Jésus, ils l'ont soupesé, ils ont regardé la forme, ils ont tout regardé et ils l'ont balancé. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que c'est ce que nous faisons avec Jésus? Ou est-ce que nous avons pris cette pierre? Est-ce que nous l'avons soupesé? Nous sommes allés dans le tas des pierres qui étaient rejetées, nous l'avons cherché, déniché. Là, nous l'avons trouvé. Et tous ceux qui rigolaient en disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette pierre ?» Vous leur avez dit « Rien du tout, vous êtes juste partis avec et vous avez dit « C'est celle-là qu'il me faut. » Est-ce que vous l'avez prise dans vos mains, observée, soupesée, jugée, considérée et adoptée comme étant la pierre essentielle de votre vie? Si vous avez fait cela, alors Christ n'est plus une pierre d'achoppement pour vous. Quand vous entendez la parole de Christ proclamée, vous n'êtes plus en train de vous énerver à l'intérieur, mais au contraire, vous êtes en train d'ouvrir les bras pour accepter la vérité. Lorsque vous entendez le jugement de Dieu sur votre vie, vous n'êtes plus en train de réagir en disant « il faut le crucifier ». Et vous êtes en train de dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison, je ne peux pas faire sans toi. Est-ce que vous avez pris la pierre d'achoppement dans votre main? Est-ce que vous l'avez considérée comme étant la pierre angulaire de votre vie? Le point central qui soutient tout l'édifice et qui empêche que votre vie devienne un calvaire, un enfer. Bien-aimés, de quel baptême avez-vous été baptisés? Le baptême de repentance de Jean était un bon baptême pour les juifs pieux, même pour les pharisiens qui voulaient se faire baptiser. Mais il n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Et sans baptême du Saint-Esprit, pas de salut. Est-ce que vous avez chuté de nombreuses fois en vous cognant à la pierre rejetée? Est-ce que vous avez entendu Dieu vous parler à de nombreuses reprises et vous avez ignoré son appel? Le rejet de Dieu finira par briser celui qui reste sourd à son appel. Comme cela s'est passé pour Israël, qui est resté sourd aux appels incessants de Dieu, alors qu'il était l'enfant chéri de Dieu. Est-ce que vous avez négligé d'écouter la voix du Saint-Esprit qui vous parlait de différentes manières et par différents serviteurs et qui vous ont parlé avec vérité de la part de Dieu? Est-ce que nous voulons vivre véritablement avec Jésus? Je vais m'arrêter là. J'aimerais que nous passions un bon moment dans la prière. Et que les uns et les autres puissiez prier soit à haute voix, soit à voix basse, comme vous le voulez.